Vous n'avez pas le temps de lire la newsletter Litterae Antiquae? Retrouvez mon regard sur l'Antiquité dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Hercule et les rois de France, quand les hommes politiques s'incarnent en héros.
Les carnets du Pilaire. Les carnets du Pilaire.
Hercule, simple, basique.
Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases.
Qui ne connaît pas Hercule? Personnage principal de son propre film Disney, ce héros mythologique est sans doute le plus célèbre. Hercule en latin, Héraclès en grec. C'est le fils de Zeus et d'Alcmène, une mortelle. Dès sa naissance, il est poursuivi par la haine d'Héra, l'épouse de Zeus. Elle envoie deux serpents dans son berceau, mais le poupon s'en saisit et les étouffe. Grand combattant et aventurier, il participe aussi à l'expédition des Argonautes. Plus tard, frappé de folie, toujours par Héra, il tue ses enfants et son épouse. C'est à cette occasion qu'il réalise les fameux 12 travaux, donnés par son cousin Eurysthée, afin d'expier ce crime. À sa mort, particulièrement tragique, il accède à l'immortalité. Vénéré partout en Méditerranée, il incarne la force brute. À travers ses victoires sur les monstres, on voit en lui le triomphe de la civilisation sur la barbarie et l'animalité. Des empereurs romains le choisissent d'ailleurs comme symbole, comme le montre le buste de Commode au musée du Capitole. Sur ce buste, l'empereur est représenté en Hercule. On le reconnaît grâce aux attributs traditionnels d'Hercule. La peau de lion, qu'on appelle la léontée, la massue, et on voit aussi, dans la main gauche de l'empereur, les pommes d'or du jardin des Hespérides. Hercule est donc un héros à symbolique politique, et c'est cet aspect qu'on va étudier ensemble dans cette nouvelle lettre. Commençons par l'Hercule gaulois. À la Renaissance, une représentation étrange d'Hercule apparaît. On parle de l'Hercule gaulois. Il s'agit d'une représentation issue d'un texte de Lucien de Samosate, intitulé Héraclès et diffusé à la Renaissance dans sa traduction latine sous le nom d'Hercule gaulois. Le narrateur décrit une peinture d'Hercule qu'il a observée en Gaule. Hercule chez les Gaulois se nomme Ogmios, dans la langue nationale. La forme sous laquelle il représente ce dieu a quelque chose de tout à fait étrange. C'est pour eux un vieillard, d'un âge fort avancé, qui n'a de cheveux que sur le sommet de la tête et ce qui lui reste tout à fait blanc. Sa peau est ridée et brûlée par le soleil jusqu'à paraître noire comme celle des vieux marins. On le prendrait pour un Charon, un Japette sorti du fond du Tartare, pour tout enfin plutôt que pour Hercule. Cependant, tel qu'il est, il a tous les attributs de ce dieu. Il est revêtu de la peau du lion, tient une massue dans la main droite, porte un carquois suspendu à ses épaules et présente de la main gauche un arc tendu. C'est Hercule tout entier. Cet Hercule vieillard attire à lui une multitude considérable qu'il tient attachée par les oreilles. Les liens dont il se sert sont de petites chaînes d'or et d'ambre, d'un travail délicat et semblable à de beaux colliers. Malgré la faiblesse de leurs chaînes, ces captifs ne cherchent point à prendre la fuite. Cet Hercule vieillard attire à lui une multitude considérable qu'il tient attachée par les oreilles. Les liens dont il se sert sont de petites chaînes d'or et d'ambre, d'un travail délicat et semblable à de beaux colliers. Malgré la faiblesse de leurs chaînes, ces captifs ne cherchent point à prendre la fuite, quoiqu'ils le puissent aisément, et loin de résister, de roidir les pieds, de se renverser en arrière, ils suivent avec joie celui qui les guide, le comble d'éloges, s'empressent de l'atteindre et voudraient même le devancer. Mouvement qui leur fait relâcher la chaîne et donne à croire qu'ils seraient désolés d'en être détachés. Mais ce qui me parut le plus bizarre, c'est ce que je veux vous dire sans délai. L'artiste, ne sachant où attacher le bout des chaînes, vu que la main droite du héros tient une massue et la gauche un arc, a imaginé de percer l'extrémité de la langue du dieu et de faire attirer par elle tous les hommes qui le suivent. Lui-même se retourne de leur côté avec un sourire. Cette étrange image d'Hercule est expliquée par un Gaulois qui révèle qu'en Gaule, Hercule est considéré comme le dieu de l'éloquence qui guide les hommes par la force de sa parole. On retrouve donc cet Hercule, par exemple, chez Dubellay, dans sa défense et illustration de la langue française. Pillez-moi sans conscience les sacrés trésors de ce temple delphique, ainsi que vous avez fait autrefois. Et ne craignez plus ce muet Apollon, ses faux oracles ni ses flèches rebouchées. Vous souviennent de votre ancienne Marseille, seconde Athènes, et de votre Hercule gallique, tirant les peuples après lui par leurs oreilles, avec une chaîne attachée à sa langue. Quand Henri II fait son entrée dans Paris le 16 juin 1549, un arc de triomphe éphémère est dressé à la porte Saint-Denis. Il montre François Ier au sommet, son père, sous la forme d'un Hercule gaulois. Ce personnage, à demi nu, porte la léontée et tient dans sa main une lance qui est entourée par un serpent. Il est couronné et dans sa main gauche, on voit un arc. Quatre personnages l'accompagnent qui sont enchaînés à sa langue. Ce sont la noblesse, le clergé, un juriste qui représente les hommes de loi et un laboureur qui représente évidemment la sphère paysanne.
C'est comme ça, merci Dieu. Je poursuis ma route, le poids de la vie sur les épaules. Tous les jours c'est la même. J'ai besoin d'avancer, je suis aveugle à tant de choses. Ce soir la lune est belle. Couché dans mon lit, je me vois grimper jusqu'à elle. Je me sens comme Héraclès.
Hercule et Henri IV. Cependant, l'Hercule gréco-romain n'est pas exclu des représentations royales. Les deux portraits officiels dont je vais vous parler représentent Henri IV en Hercule terrassant l'hydre de Lerne. Le premier tableau, conservé au musée du Louvre, est une huile sur toile d'un peintre anonyme français. On l'attribue en général à l'entourage du peintre Toussaint Dubreuil, qui était apprécié d'Henri IV. La deuxième toile est de Jean-Baptiste Maréchal, auteur de plusieurs portraits du roi. Ces deux tableaux s'inscrivent dans un programme de propagande politique dans le cadre des guerres de religion. Sur les deux tableaux, Henri IV est représenté comme Hercule dans son deuxième travail, qui consiste à vaincre l'hydre de Lerne. Sur le premier tableau, Henri IV a un corps athlétique et fort, mais une barbe blanche. Il porte une tenue antique, la léontée, et s'appuie sur la massue. On remarque, à gauche, un bouclier. Sa tête est ceinte d'une couronne de laurier. Sur le deuxième tableau, Henri IV porte cette fois-ci un costume royal élégant et la croix de l'ordre du Saint-Esprit. À ses pieds, sur les deux tableaux, repose le monstre, la gueule ouverte, vaincu par la puissance du roi héroïque. L'hydre est ici symbole de rébellion et de chaos. Ennemi insidieux, il se multiplie dans le pays et renaît à chaque intervention armée. Dans le cadre des guerres des religions, l'hydre est souvent associé au protestantisme. Cependant, Henri IV réemploie cette métaphore, mais désigne ici la Ligue catholique qui s'oppose à son pouvoir et déstabilise le pouvoir du roi, le pouvoir royal. Henri IV se présente ici en Hercule civilisateur et pacificateur, qui assure la sécurité et la stabilité. Hercule et Louis XIII. Louis XIII, lui aussi, se présente sous les traits d'Hercule, dans une estampe à l'eau-forte du graveur Abraham Boss. Datée du 20 mai 1635, la scène représente la victoire de l'armée royale française sur l'Espagne lors de la bataille d'Avain, je pense que ça se dit comme ça, durant la guerre de 30 ans. Sous le dessin, une ode de 36 ans célèbre aussi la victoire. Louis XIII est représenté coiffé d'une perruque, mais revêt la tenue de l'impérator romain. La fleur de lys sur la cuirasse rappelle qu'il est le roi de France. Il se tient sur des trophées constitués de boucliers et de drapeaux pris aux ennemis. On retrouve évidemment la Léontée et la massue d'Hercule. Louis XIII est entouré de motifs symboliques de sa victoire. Le laurier et le palmier encadrent la scène. Le coq, symbole du peuple français et de la royauté, semble faire fuir le lion qui, lui, symbolise l'Espagne. En arrière-plan, une scène de bataille montre les cavaliers français achevant les adversaires. Dans le ciel, deux chars sont occupés l'un par Hercule, l'autre par Henri IV en Hercule. Il s'agit ici d'une représentation traditionnelle de l'apothéose. Comme on l'a vu pour Henri IV, le portrait allégorique se trouve au service de la propagande politique du pouvoir royal. Le roi apparaît comme un héros gréco-romain et s'attribue ainsi les qualités de force guerrière, de victoire, d'ordre et de justice. Hercule étant un demi-dieu, le roi se trouve ainsi doté d'une aura surhumaine. Hercule incarne ici le pouvoir. Hercule et Napoléon III. Hercule apparaît encore dans l'apothéose de Napoléon III de Cabasson. Napoléon III, au centre de l'œuvre, se tient debout sur le char de l'apothéose. À ses côtés se trouve la France, qui tient le drapeau tricolore. Devant le char, Athéna et Héraclès tiennent les rênes. Athéna est représentée de façon traditionnelle, avec son casque, sa lance et son bouclier orné de la gorgone, qu'on appelle le gorgonéion. Héraclès est identifiable à la Léontée et à la massue. D'autres allégories et figures mythologiques peuplent cette toile très symbolique. L'apothéose de Napoléon s'inscrit dans la tradition issue de l'apothéose d'Hercule, qui, grâce à ses exploits, accède à l'immortalité aux côtés des dieux de l'Olympe. On retrouve ici la même dimension politique de la figure d'Hercule. Qu'en est-il aujourd'hui ? 75.
Ils m'ont tué quand ils m'ont dit que j'étais trop différent. J'ai dû affronter la folie d'un rêve itinérant. Comme Sangoku, j'ai besoin de votre force, mes amis, donnez-moi. J'essaie de pardonner, mais ça suffit pas d'être tolérant. Je suis devant l'éternel comme un enfant devant son père foissant. Je fais du rangement dans ma vie, mais mon ordre est décroissant. Les putes en tête d'affiche, j'ai vu des vrais les dépassant. Je suis comme Hercule, je leur fais la leçon tout en les terrassant. Moi j'ai mes packs et j'en ai grave voulu à Sludge Night. 15 ans, j'ai senti la sincérité dans Thug Life. Et j'ai dû m'en aller quand papa m'a dit c'est chez moi. Et j'ai survécu dans la rue en changeant ses schémas.
Figurez-vous qu'Hercule n'a pas quitté les représentations du pouvoir, que cela soit dans la caricature politique ou dans l'iconographie officielle. Hercule est aujourd'hui souvent associé aux travaux insurmontables. Dans les caricatures dont je vais vous parler, Hercule en personne, puis l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, sont confrontés à de nouvelles tâches qui semblent bien plus insurmontables que les travaux mythologiques. Dans la première caricature de Deligne, publiée sur urtican.net, on voit Hercule, un personnage de grande envergure, mais représenté avec des petites bulles et un air un peu stupide, les bras ballants, fait face à un homme en costume, portant des lunettes, et qui a à ses côtés une petite valise bleue avec les étoiles en cercle qui représentent l'Europe. Du côté d'Hercule, qui se trouve, lui, en tenue grecque, puisqu'il porte une tunique blanche avec des petits dessins, des petites frises grecques, des sandales, et il a un bandeau dans les cheveux. Et derrière lui se trouve une forme architecturale qui rappelle une toute petite colonne grecque. Le personnage en costume, qui représente donc l'Europe, tient un papier entre les mains qu'il est en train de lire, et il dit « Petit 1, augmenter les impôts. Petit 2, baisser les salaires. Petit 3, réduire les déficits. Petit 4, point de suspension. » À cela, Hercule répond « C'est trop dur. T'aurais pas plutôt des écuries à nettoyer, un lion à faire chier, un taureau à défoncer. » Ici, on retrouve bien la notion de travaux insurmontables, et on se retrouve évidemment dans la situation politique de la Grèce qui devait réduire ses déficits sous les ordres de l'Europe. La deuxième caricature met face à face l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qu'on reconnaît facilement, qui a une suie sur le front, qui montre qu'il a l'air embêté par la situation. Son cou est avancé dans un air lui aussi un peu abruti, puisqu'il a la même posture de bras ballants que l'Hercule qu'on a vu précédemment. Face à lui, on a un Zeus en costume grec, avec des sandales, il a le front ceint d'un bandeau doré, il tient dans la main un éclair, et la caricature laisse évidemment reconnaître le président Emmanuel Macron. Celui-ci tient dans la main gauche un long document qui fait plusieurs vagues sur le sol et qui se termine par un tampon officiel avec une sorte de pastille. Et il dit à son premier ministre « Ah Hercule, tu tombes bien, je t'ai préparé une petite liste de travaux. » Ceci était une caricature de CAC, dessinateur de presse pour l'opinion, et qui a été publiée en 2017. Dans ces deux caricatures, on retrouve bien l'idée des travaux insurmontables d'Hercule. La troisième caricature, c'est le président Emmanuel Macron qui prend en charge la posture d'Hercule. Donc on voit Emmanuel Macron tenant bizarrement dans sa main un bouclier carré plutôt représentatif d'ailleurs de l'armée romaine, un bouclier rectangulaire plutôt, et une épée. Derrière lui, une journaliste tend son micro pour l'interviewer. Le président dit « Je ne suis plus Jupiter, je suis Héraclès et ses 12 travaux pour votre plus grand bien ». Et la journaliste commente ou Don Quichotte. Donc ici, le président quitte la posture jupitérienne qu'on lui avait attribuée au début de son premier mandat pour prendre celle du héros Héraclès qui va évidemment non seulement affronter les 12 travaux, ces travaux insurmontables, mais pour votre plus grand bien, rappelle la mission civilisatrice d'Hercule. Et ici, c'était une caricature de Kat publiée en 2022. Mais j'aimerais terminer ce parcours par une exposition qui s'est tenue à Moscou en 2014 à l'occasion du 62e anniversaire de Vladimir Poutine. Mettant en scène le président dans une série de tableaux intitulés « Les 12 travaux de Vladimir Poutine », les artistes, tous très différents, réinterprètent les monstres mythologiques sous une forme symbolique. Dans les deux œuvres que j'ai extraites, on voit, dans un premier temps, Vladimir Poutine, dans des coloris attribués plutôt à la statuaire grecque, donc noir, le fond noir et des personnages orangés. On a Vladimir Poutine, très reconnaissable, vêtu d'une tunique à la grecque, affrontant un géant qu'il tient par la gorge en l'étranglant. Et ce personnage incarne le terrorisme, puisque sur la casquette de ce personnage est écrit « Terror ». Ce personnage est en costume contemporain, il a des lunettes noires, une barbe. Il a sur son épaule droite une tête de lion, il a un fusil, je pense une sorte de kalachnikov autour de lui, et il porte un gilet contenant de nombreuses bombes, puisque c'est un gilet piégé. Donc ici, évidemment, on voit la différence de taille entre les deux personnages, mais aussi un Vladimir Poutine qui, à la seule force de ses mains, arrive à terrasser le terrorisme. L'autre œuvre présente dans le même esprit, puisqu'on retrouve les mêmes tonalités, les figures rouges sur fond noir, un Vladimir Poutine, cette fois-ci plutôt dans une tenue de gladiateur, beaucoup plus dévêtue, on ne retrouve pas la tunique. Il tient dans sa main droite un bouclier rond, et dans sa main gauche une épée. Il affronte là l'hydre de Lerne, donc ce monstre serpentin à plusieurs têtes, Et sur ces différentes têtes sont écrits en caractère cyrillique les pays qui sont représentés, les pays ou les instances qui sont représentées. Certaines têtes sont aussi reconnaissables à les couronnes qu'elles portent et qui permettent pour les non-cyrilliques, évidemment, reconnaître les pays concernés. Parmi ces pays, on a le Japon, qui est en train de perdre sa couronne, on a l'Europe et on a le Canada. Et la figure du serpent, la tête serpentine du Japon, crache du feu sur le bouclier de Vladimir Poutine. On peut constater que la tête américaine est déjà au sol, tranchée par Vladimir Poutine. Ici, nous avons Vladimir Poutine affrontant l'hydre des sanctions internationales dans le contexte international que l'on connaît. J'achève là-dessus et j'espère que vous aurez pris plaisir à ce parcours artistique et mythologique sur les pas d'Hercule, voilà, qui est parfois surprenant et qui m'a moi-même surprise. J'espère qu'à travers ces podcasts, je vous convainc que l'Antiquité est toujours bien vivace. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Cela récompenserait mon travail et m'encouragerait à vous partager plus d'Antiquité. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram ou bien tout simplement commenter le podcast sur Spotify. Vous pouvez aussi soumettre vos idées et vos remarques. Je vous dis à une prochaine fois dans vos oreilles.
À partir de ce jour, notre bel Hercule devint l'idole des foules. Il était plein de flammes, de charme et si cool. Ah